Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Scoobings de la Presse. Je vous propose trois thèmes à savoir. Meeting des restitutions mardi dernier au stade des martyrs de Kinshasa, du président de l'UDPS après sa tournée en dehors du pays. Ensuite, votre mardi dernier à l'Assemblée nationale, du projet de loi portant annexe à la loi électorale. Et enfin, propagation rapide de l'épidémie de choléra dans la ville de Kinshasa. D'après l'OMS, la capitale congolaise enregistre à ce jour plus de 200 cas, dont 21 décès. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Paul Diakese. Il est directeur des informations à la radio-télévision Sango Malamo, émettant depuis Kinshasa. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Victoire Eyobi, il est directeur des publications du magazine économique Entreprendre, un magazine qui paraît à Kinshasa. Destin Bambi, il est correspondant de Digital Congo en Bandaka à l'Équateur. Meeting de Tien Tshisekedi, vote du projet de loi sur les annexes à la loi électorale et propagation de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Comment la presse a traité ces différents thèmes? On écoute cette revue de presse que nous présente Kevin Kouké.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le retour d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Le potentiel affirme à sa une, Tshisekedi à Kinshasa, une véritable démonstration des forces. Selon le contraire, la démonstration des forces était constatée lorsque toutes les activités ont tourné au ralenti, donnant l'impression d'une ville morte. La population s'étant rendue dès l'aube en masse à l'aéroport international de Ndjili pour accueillir à 9h Étienne Tshisekedi. Le phare est aussi d'avis en ce qui concerne la démonstration des forces lorsqu'il affiche en très gros plan l'implacable démonstration de Tshisekedi au stade de martyrs. D'après le contraire, le leader Étienne Tshisekedi a insisté que le Congo de demain doit être un Congo de l'amour du prochain et des jeunes. La prospérité a pour sa part mis l'accent sur l'affaire candidature commune évoquée par Étienne Tshisekedi avec cette phrase clé en manchette. Chacun doit consolider sa base. Rendons-nous à présent au Parlement pour parler de l'adoption à l'Assemblée nationale des annexes à la loi électorale. À la une de Forum des As, on peut lire les annexes à la loi électorale votées en urgence à l'Assemblée nationale. Ce journal estime que par cet acte, la Chambre a sauvé le pays de l'impasse. L'avenir de son côté constate qu'une séance a suffi pour que les députés passent en revue et adoptent cette annexe qui fixe la répartition du siège tant au niveau de la députation nationale que de la députation provinciale. Terminons cette revue de presse par le choléra qui ravage toujours en RDC. Inquiétude, titre le palmarès, 19 zones de santé affectées par le choléra à Kinshasa. En l'espace d'une semaine, les cas identifiés du choléra sont passés de 187 à 271, dont 21 décès à Kinshasa, chiffre relevé par le coordonnateur du groupe sectoriel Santé Urgence à l'OMS. Et de l'autre côté, Forum des As pense que l'insalubrité entretient l'épidémie. La population à la fois victime et responsable. Au journal de conclure que l'heure n'est plus au bilan, il faut plus penser à la prise en charge de la maladie.
Merci, Kéline Couté. Un petit commentaire, Victoire Eyobi. Vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est les ambassadeurs de la France, de la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, ainsi que de la Grande-Bretagne, qui ont confirmé la participation de leurs observateurs pendant les élections présidentielles et législatives prochaines.
Oui, je crois que l'actualité a été très abondante cette semaine. Et là, nous entrons dans la ligne droite des prochaines élections. Et nous voyons, notamment avec la démonstration des forces de l'UDPS, mais également l'engagement des députés à pouvoir régler tout ce qui était encore litigieux en rapport avec la loi électorale. Donc, je me dis que le paysage politique congolais est en train de se remodeler et de prendre la forme qu'il faut pour que les élections se tiennent dans les temps et surtout dans des bonnes conditions. Et j'ai également beaucoup apprécié le fait que la démocratie est en train de voir le jour sur les terrains politiques, notamment avec toute cette liberté que les partis politiques ont à s'émouvoir, à tenir des meetings et surtout à s'exprimer librement devant leur public. Donc, c'est tout cela qui montre que le paysage est en train de se modifier.
Delphin Mbambi, vous êtes correspondant de Digital Congo à Mbandaka, à l'Équateur. Et quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine à Mbandaka, dans la province de l'Équateur?
Oui, en Mbandaka, nous avons connu une sorte de mascarade au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous savez, le lundi dernier, l'Assemblée a été assiégée par les éléments de la police nationale congolaise. Aussi offre d'une certaine hiérarchie selon la police, empêchant accès à toute personne, même aux députés provinciaux qui sont censés travailler dans l'hémicycle. Et nous apprenons qu'il y a deux jours, le vice-ministre de l'Intérieur de l'Intérieur, Adolphe Lemamou, venait d'envoyer un message officiel au gouverneur de province de bien vouloir construire à ce service pour qu'il soit assis à les ordres ici à l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Merci. Notre premier thème de ce soir, meeting de restitution mardi dernier au stade des martyrs de Kinshasa du président de l'UDPS après sa tournée en dehors du pays. Etienne Tshisekedi Wamulumba demande à la communauté internationale de ne pas influencer les choix du président de la République, mais plutôt de laisser le libre choix à la population congolaise. Le président de l'UDPS l'a fait savoir mardi dernier lors de son meeting au stade des martyrs de Kinshasa. D'après lui, cet appel lancé à la communauté internationale était l'objectif principal de sa tournée en dehors du pays. Écoutons Étienne Tshisekedi sur des propos recueillis par Asien Zibia Tayoro.
Je rapportais les gens qu'on appelle des décideurs internationaux. D'après mes entretiens avec eux, ils disent tous être acquis au changement au Congo. Je leur ai dit qu'en novembre 2011, ils ne nous amènent plus de désordre à l'image de ce qui s'est passé aux élections de 2006. Les Congolais ont maintenant la maturité, ils veulent eux-mêmes choisir librement l'homme qui pourra diriger leur pays. Tous sont d'accord et m'ont donné raison. Donc, que personne n'ait plus peur aux élections de novembre prochain.
On parle à des sociaux et l'homme.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien Forum des As qui dit « Candidature unique de l'opposition, Étienne Tshisekedi se prononce ». Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Rentré mardi du Katanga via Nairobi, Tshisekedi à Kinshasa, une véritable démonstration des forces ». Et nous avons le quotidien L'Avenir qui dit « Plein et après ». Mais la majorité doit éviter l'erreur de 2006. Et Victoire Eyobi, avez-vous été surpris par l'accueil réservé par la population à Étienne Tshisekedi quand il est revenu au pays, ou pour vous c'était prévisible?
Oui, c'était prévisible. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Kinshasa offre un tel accueil au président de l'UDPS. C'est parmi les partis les mieux ancrés dans la capitale. Et c'était tout à fait normal après tout ce que nous avons vu au Katanga. Vous savez, le Katanga n'a pas fait moins que cela, 6 heures de cortège, et pratiquement il s'est rendu dans les différents districts de la province. Donc c'était tout à fait normal qu'à son retour à Kinshasa, toute la base se mobilise, surtout qu'il leur avait promis un message qui venait de loin, c'est-à-dire qui venait de l'Occident, où il avait été en tournée, où il a rencontré les décideurs. Chacun voulait avoir une lumière de sa part, de manière à se fixer sur la position à prendre concernant les prochaines élections. Et c'est ce qu'il a fait, heureusement. Il s'est prononcé à tous ces sujets devant son auditoire au stade des martyrs.
À la place de Paul Diakéfé, la réalisation vient de me signaler que nous avons Ambroise Mamba, qui est journaliste à la télévision au Congo Web. Ambroise Mamba, bonsoir.
Bonsoir, Timothée.
Nous parlons du meeting de restitution prononcé le mardi dernier au stade des martyrs par le leader de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi. Selon lui, sa tournée à l'extérieur avait comme objectif de demander à la communauté internationale de ne pas influencer le choix du président de la République. Et comment vous analysez ce discours?
Effectivement, je trouve quand même qu'il a raison parce que par rapport à 2006, par rapport à d'autres élections en Afrique, on a constaté par exemple que l'Occident s'ingère dans les choix des dirigeants en Afrique, peut-être pour préserver leurs intérêts. Alors, Tshisekedi a fait sa tournée héros américaine pour chercher à faire comprendre à la communauté internationale de ne pas s'ingérer dans les choix des dirigeants en RDC parce qu'en 2011, l'élection, il faut pas qu'effectivement que le pouvoir vienne du second primaire, la population bien entendu, et là il a raison de pouvoir demander cela à la communauté internationale, qui est la communauté internationale qui a aussi besoin de l'RDC comme partenaire par rapport à ses intérêts, c'est tout l'Occident bien entendu, peut s'allier ou bien adhérer à ce que la population pourra décider après les élections, si c'est un Tshisekedi, un Kamere, un Kabila qui est élu dans la transparence, et c'est celui-là qui devra travailler désormais avec la population. Et là, Tshisekedi a raison de pouvoir le réciter à la population pour demander à ses militants d'être vigilants et puis faire tout pour peut-être lui donner cette victoire puisqu'il en a également besoin.
Peut-on dire que Tshisekedi avait des soupçons selon lesquels l'Occident avait l'intention d'imposer un homme au Congo?
Vous savez, Tshisekedi a commencé la politique des années 60. Tshisekedi s'est toujours battu pour avoir le pouvoir au pays, mais il ne l'a toujours pas eu. Et on a toujours dit que c'était parce qu'il est nationaliste. Et l'Occident n'a toujours pas besoin des nationalistes en Afrique parce que les nationalistes préservent bien les intérêts des nationaux que de l'extérieur. Alors il a compris le jeu, il sait que c'est comme ça qu'il se passe à travers l'Afrique. Et puisqu'il sait que c'est comme ça qu'il se passe, il est parti voir directement les décideurs internationaux, ce qu'il appelle les décideurs internationaux, pour que cette expérience malheureuse ne soit pas encore vécue à RDC lors de l'élection du 28 novembre.
Destin Mbambi, vous pensez que le discours d'Étienne Tshisekedi a été entendu?
Bon, disons tout de suite que, vous savez, la RDC, notre pays, n'est pas un vase clos. Le pays est dans un environnement historico-sociologique. Vous savez, les réalités actuelles dans les pays, notamment des Africains, comme notamment le cas de Côte d'Ivoire et de la Libye. Et croire que la plupart des chefs d'État africains sont ni moins ni plus que les caporaux de l'impérialisme occidental. Ils sont là pour garder les intérêts économiques de la bourgeoisie et de ceux qui les placent au pouvoir. Et qui s'était avait raison de tirer la sonnette d'alarme. Mais quand pas dire que Kabila aussi a fait partie des gens, des présidents dont les fonds ont été financés par la communauté internationale, moi je dirais non. Vous savez, combien de fois Kabila s'est battu pour arracher les pouvoirs. Et bien notamment, ils ont partagé avec Antoine Kizenga, avec Nzanga Mobutu, tous ces alliances. C'était pourquoi? Pour qu'ils puissent continuer de pouvoir honnêtement, et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, il faut dire selon les principes du droit international qui dit qu'aucun pays ne peut s'ingérer dans les affaires de notre État. Donc, les populations souveraines, nous avons beaucoup perdu d'argent pour les élections, et je n'ose pas croire que ces élections ont été une sorte de parodie où les internationaux nous ont imposé qui que ce soit pour ces intérêts.
Victoire Yobi, Vital Kamere s'est dit disposé à rencontrer Ken Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba en toute humilité et pour choisir entre eux avec d'autres opposants un seul candidat pour représenter l'opposition à la présidentielle de 2011.
Oui, c'est une déclaration qui a été très bien accueillie dans l'opinion, d'autant plus que c'est intervenu juste au moment où le président de l'UDPS était en train de regagner la capitale. Et Vital Kamere, il prêche pour l'unité de l'opposition, qui d'après lui est le socle de la victoire aux prochaines élections. Pour lui, personne ne gagnera les élections seul, c'est-à-dire qu'il faudra aller en groupe, en équipe. Et je trouve que c'est une position très très appréciable, d'autant plus que jusque-là on a déploré le fait que dans l'opposition il y avait comme un désordre, chacun y allait de sa candidature, de sa petite campagne, et ce n'est pas de cette manière-là qu'on pouvait changer les choses dans ces pays. Et je me dis que maintenant la balle est dans les camps des autres leaders. Il y a bien sûr l'UDPS, et l'UDPS également, le président Tshisekedi, il s'est prononcé pour des concertations, non entre individus, mais plutôt entre les plateformes et les partis politiques. Ça, déjà, c'est également un écho favorable. C'est question maintenant de savoir qui va faire la démarche vers les autres pour les intégrer dans ces processus. Et de l'autre côté également, il faut craindre que ces concertations ou cette démarche prennent beaucoup de temps, parce qu'en réalité, on n'a plus assez de temps en attendant les élections. C'est quelque chose qu'il doit faire rapidement, c'est concerter, communier autour d'un plan commun et d'un leader qui pourra défendre les couleurs de l'opposition aux élections.
Ambroise Mamba, Vita Kamere, a lâché du lest, il a fait des concessions. Vous pensez que cette attitude peut faciliter l'évolution du débat au sein de l'opposition? Victoire Yogi l'a évoqué ici, à un moment donné, on avait l'impression que chacun est campé dans sa position.
Oui, vous parlez des concessions, mais je m'imagine que Vital Kamerhe n'a pas encore fait des concessions. Il a plutôt émis le vœu de voir l'opposition se réunir pour maximiser les chances de réussite. Il a souhaité voir Jean-Pierre Bemba et Tshisekedi pour parler de la candidature commune. Et lui, en tant que candidat, Bemba comme candidat du MLC, Tshisekedi comme candidat de l'UDPS, pour qu'ensemble, on fasse maintenant des concessions. Qui va laisser la place à l'autre? C'est ça la grande question. Est-ce que Tshisekedi va vouloir laisser la place à Bemba ou à Kamerhe? Est-ce que Kamerhe va vouloir laisser la place à Tshisekedi ainsi de suite? C'est ça la grande question. Et là, c'est peut-être au terme des concertations qu'il y aura un compromis et qu'on va faire des concessions, par exemple, pour que quand il y a un candidat qui va peut-être être soutenu au niveau de la présidentielle, qu'un autre, on puisse peut-être lui proposer la primature ainsi de suite. Et ça, c'est une bonne chose. Et Tshisekedi, quand il a parlé également, il ne s'est pas opposé à cette idée. Il a souhaité que l'opposition commence d'abord par l'élaboration d'un programme commun de gouvernance pour l'alternance au pouvoir, et c'est une bonne chose. Mais je voudrais un peu réagir par rapport à ce que le confrère au téléphone a dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on appelle accusation gratuite par rapport à la victoire de Joseph Kabila en 2006. Je ne pense pas que quelqu'un a dit ici que Joseph Kabila n'a pas été élu en 2006, mais on le dit par rapport à ce qui se passe en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ici, le pouvoir en place continue à soutenir Laurent Gbagbo. Par exemple, quand on a dit que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections, on a dit non, c'est lui qui avait gagné les élections et que la communauté internationale qui avait pistonné Ouattara devait faire tout pour que Laurent Gbagbo puisse céder le pouvoir. Alors, c'est par rapport à ça qu'on dit que si, effectivement, la commission électorale indépendante ivoirienne a donné Ouattara gagnant des élections, c'est qu'on devait se plier à ces résultats, comme on s'est encore plié aux résultats de 2006 en RDC, quand la CENI de Maluma lui a proclamé Joseph Kabila gagnant, on a applaudi, on a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Mais par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on soupçonne la communauté internationale de vouloir pistonner ses candidats pour nourrir ses intérêts. Voilà pourquoi je suis dit qu'il est parti, pour qu'effectivement cette communauté ne puisse pas faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Et Tshisekedi, comme vous l'avez vu, a voulu prouver à la face du monde sa popularité. Il a commencé par le Katanga, il est venu à Kinshasa, et il a placé la barre très haut pour faire voir aux gens qu'il est populaire. Et si ça continue comme ça à travers le pays, je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux, ça ce n'est pas de la farce, et c'est vraiment, il faut en tenir compte.
Delphine Bambi, il y a deux thèses qui s'affrontent au sein de l'opposition. Hein. Les uns pensent qu'il faut un débat après les élections, comme ça on pourrait apprécier les poids politiques de chacun. Et par contre, les autres pensent qu'il faut un débat sincère avant d'aller aux élections. Comment peut-on harmoniser ces deux points de vue?
Moi, je pense que si on répond au débat jusqu'au niveau de après les élections, moi, je pense que l'opposition va faire. Quand l'opposition voit un âge de diversité et que dans le respect de la majorité, ils vont dire qu'on peut candidat Joseph Kabila, là, l'opposition va certainement faire les élections. Autant on a fait le débat actuellement, afin qu'en fait, ils puissent sortir un seul candidat, et que ce candidat-là puisse représenter vraiment l'opposition. Et que tous les suffrages lui soient donnés au niveau de l'opposition, et ce n'est après là qu'on pourrait faire le partage du pouvoir.
Victoire Yobi, s'il y a débat actuellement au sein de l'opposition, ce débat pourrait porter sur quoi? Sur un programme commun ou sur un candidat unique?
Il y a ces deux points-là qui sont très importants. D'abord, le programme. On doit savoir ce qu'on fera exactement, parce que jusque-là, chacun vient avec une vision bien précise, il y a lieu de trouver un tronc commun. Sur base de ces troncs communs, chacun pourra s'y attacher. Et deuxièmement, il y a la question en rapport avec le leader qui va conduire la troupe à ces joutes électorales. Alors, en plus de cela, c'est-à-dire en second lieu, bien sûr, il y a les garanties qu'il faut donner à chacun. Il faudra savoir qu'il y aura un seul président de la République, mais ce président de la République sera entouré. Dès maintenant, on connaît avec qui il va en bataille, et c'est tout à fait normal qu'après les élections, ceux qui ont contribué à la victoire finale puissent se retrouver dans la gestion du pays. Il y a autant de postes, il y a autant d'occupations, il y a autant de secteurs dans ces grands Congos où chacun peut bien se retrouver, mettre son talent et au service de la population. Donc, ce n'est pas un problème des postes ou de quoi il manque, mais c'est un problème de répartition. Et le temps pour répartir, c'est maintenant plutôt qu'après les élections. Ben, si on les fait après les élections, on entendra les discours du genre avant les élections, ce n'est pas après les élections, ou bien tout simplement, on oublie les gens avec qui on a combattu et on regarde d'autres. Vous l'avez suivi en Côte d'Ivoire avec le maître du général qui a soutenu Ouattara juste après les élections et après la victoire finale, le général est parti. Alors, je me dis qu'ici chez nous, la répartition.
Le commandant Ibeka.
Ibeka, merci beaucoup. La répartition doit se faire maintenant. Il faut apporter des garanties à tout le monde maintenant. Et même quand Étienne Tshisekedi dit que l'Occident ne va pas s'ingérer dans les résultats des urnes, bien sûr, les Occidentaux donnent leur accord, mais de l'autre côté, il y a des garanties. Il y a des choses qu'il faudra modifier et il y a des choses qu'on ne pourra pas toucher, que vous soyez élu ou que vous ne soyez pas élu. Ça, on ne peut pas le dire sur la place publique parce que ça entre dans les domaines de la haute politique.
Ambroise Mamba, pensez-vous qu'il faut un débat sur la répartition des postes maintenant?
Pas sur la répartition des postes maintenant. Moi, je m'imagine que d'abord, ils doivent d'abord se mettre d'accord autour d'un programme commun de gouvernance pour que l'on sache que dès que l'on aura les pouvoirs, qu'est-ce qu'on fera. Parce que si on peut imaginer que chaque parti politique au niveau de l'opposition a d'abord ce qu'on appelle un gouvernement fantôme, un gouvernement qui gère parallèlement au gouvernement officiel de la République. Et dans chaque secteur, le parti politique, par rapport à son programme, à son projet de société, se propose déjà des solutions. Dès que j'aurai le pouvoir, je ferai ceci et cela. Et l'UNC, le MNC et l'UDPS, qui devront se mettre ensemble, doivent se fixer par rapport à cette gestion. Quand on aura le pouvoir, qu'est-ce qu'on fera? Il ne faudra pas que ça se passe comme ça s'est passé avec la coalition ANP, Palou Indemo. Aujourd'hui, on a remarqué par exemple que le Palou n'avait pas la politique de ses moyens. Le Palou avait presque le même niveau au niveau de la primature. Alors tout ça, il faudra que l'on puisse réfléchir là-dessus. Et par rapport à la répartition des tâches, je m'imagine que l'accord doit se traiter à deux niveaux. Le premier niveau, c'est peut-être parce que quand on a un candidat à la présidentielle, on dit par exemple que vous, monsieur Tshisekedi, on va vous soutenir à la présidentielle. Et les autres, on va peut-être penser à eux quand on aura le pouvoir, pour qu'à la primature et à l'Assemblée nationale qu'on puisse réfléchir de cette manière-là. Mais le plus important, c'est la gestion, ce n'est pas la répartition des postes. Si on pense en termes de répartition des postes, là, on le fait par rapport à ses intérêts privés ou personnels et non par rapport aux intérêts généraux. Et puisqu'on ne sait pas pour l'alternance au pouvoir, et on doit plus miser pour l'intérêt général de la nation et ceci, c'est par rapport à ce qui doit être la gestion pour amener le peuple vers le bonheur.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, vote mardi dernier à l'Assemblée nationale du projet de loi portant annexe à la loi électorale. L'Assemblée nationale a voté mardi dernier le projet de loi portant annexe à la loi électorale. Ce vote est intervenu après la présentation de son économie générale par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et à l'issue de l'examen de ce projet en plénière. Richard Junior Kamunga, qui a assisté à cette plénière, nous donne les grandes lignes de cette annexe.
Cette annexe démontre la répartition des 500 sièges pour les futurs députés nationaux. Ceux-ci viendront des 169 circonscriptions électorales réparties sur l'ensemble du territoire national et sur base des 32 024 670 électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante. En tête de la province du Katanga, qui aura 72 députés nationaux et 120 députés provinciaux. La province de l'Équateur, 62 députés nationaux et 126 députés provinciaux. La province du Bas-Congo aura 23 députés nationaux et 30 ainsi députés provinciaux. Au bas de l'échelle, la province de Maniema a 14 députés nationaux et 24 députés provinciaux. Il faut retenir que Kinshasa, la capitale et ville-province, aura 51 députés nationaux et 48 députés provinciaux. En ce qui concerne les députés provinciaux pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous aurons 774 sièges. Parmi eux, 706 seront élus, tandis que 68 seront cooptés. Il s'agit ici des chefs coutumiers.
Destin Bambi, ce projet nous donne une idée sur la répartition des sièges et la province de Katanga est en tête avec 72 députés nationaux et 120 députés provinciaux. Les Maniema occupent la dernière place avec 14 députés nationaux et 24 députés provinciaux. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Par rapport à ça, nous sommes très contents, nous qui sommes ici à l'Équateur, puisque nous avons 72 députés nationaux et 120 députés provinciaux. Mais toutefois, je n'ai pas apprécié la précipitation avec laquelle la loi a été votée. Vous savez, juste après la révision du fichier électoral, nous avons eu à fréquenter la CENI. On pouvait peut-être commencer par le nettoyage, la consolidation des fichiers. Chose qui n'a pas été faite, et curieusement, nous apprenons qu'on est en train, on a déjà voté l'annexe d'année électorale, et on se demande sur quelle base, et si jamais les fichiers en question, qui est encore en consolidation, s'avéraient, disons, avec des erreurs, alors, qu'est-ce que serait, est-ce qu'on ferait un retour en arrière? Je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la méthode. On aurait pu commencer d'abord par consolider les fichiers électoraux, les nettoyer, et puis soumettre ça à l'examen de l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il y a eu un problème au niveau de la planification, et qu'on a précipité les choses, hein, les retirer bien quand même.
Oui, Victoire Eyobi, Destin Bambi évoque la précipitation avec laquelle le projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale. Les textes, en fait, de ce projet, logiquement, étaient élaborés sur base du fichier électoral. Mais ce fichier qui devait être nettoyé n'a jamais été publié. Et cette question a été même posée au Sénat.
Oui, c'est parmi les grandes revendications de l'opposition vis-à-vis de la CENI. Et c'est un problème essentiellement technique. Moi, je me dis que pour le résoudre, ça ne posera pas trop de problèmes, à moins que on puisse y inclure la politique là-dedans, parce qu'il était promis qu'après les opérations, on ferait le nettoyage et on afficherait les listes définitives pour que chacun puisse se fixer et qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de tricherie et autres. Mais moi, je voudrais plutôt saluer les efforts déployés par les députés pour finalement nous doter de la loi électorale, parce que vous savez, ces documents étaient essentiels pour la poursuite des opérations, et quelque part, on a longtemps déploré le retard pris par les députés qui ont revendiqué, entre autres, leurs émoluments, et le temps était en train de passer, mais cette fois-ci, quand ils libèrent cela, moi je crois que c'est à saluer. Les 32 millions, c'est déjà l'échantillon qu'il fallait avoir, c'est-à-dire on a une idée assez exact concernant la population qui va voter prochainement. Et sur base de cela, moi je crois que c'était tout à fait normal de libérer la loi électorale plutôt que de la bloquer à cause d'un problème purement technique.
Oui, Ambroise Mamba, le débat sur le nettoyage ainsi que la publication du fichier électoral, c'est un débat qui peut bloquer la loi sur les annexes à la loi électorale.
Bon, je ne pense pas que ça peut bloquer les annexes de la loi électorale, mais le problème c'est que ça risque de discréditer la CENI par rapport à la transparence des élections. Ngoyimo Lunda l'a dit, nous devons organiser les élections dans la transparence, l'impartialité, la neutralité, mais la transparence c'est d'abord l'audit du fichier électoral et qui est précédé par ce nettoyage, parce qu'il y a eu des irrégularités qu'on a enregistrées, mais parce qu'il l'a pas fait. Et quelle autre garantie donne par rapport à cette transparence? Je pense que il s'est discrédité par rapport à son travail. Et la loi électorale, l'annexe est adoptée, Kinshasa a perdu les sièges. Je m'imagine que c'est en rapport avec les quotients électoraux. Quand on parle de plus de 32 millions d'enrôlés, il y a un quotient électoral qui fait que Kinshasa puisse avoir moins de sièges par rapport à d'autres provinces comme le Katanga qui en a 1972. Et le plus important actuellement, c'est tout le travail au niveau des partis politiques pour chercher à convaincre leur électorat pour avoir plus de députés. Mais autre chose que moi, je voudrais souligner ici, je ne vois pas qu'il y ait de la précipitation au niveau de l'Assemblée nationale pour adopter la loi. Moi, je pense que les calculs, c'est d'abord au niveau des effectifs par rapport au nombre d'enrôlés et par rapport au quotient électoral. Le calcul est simple pour avoir le nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription électorale. Mais la question que moi, je me posais maintenant, c'est que devient la menace de Ngoïnou par rapport au découplage des élections présidentielles et législatives, même si il se rachetait pour présenter ses excuses aux parlementaires. Mais ça devient quoi, ça menace? Parce qu'il avait un avis d'autorité cette fois-là quand il avait parlé en termes de découplage des élections. Je vais découper les élections si vous ne me donnez pas la loi d'ici les 10 août. Aujourd'hui, on est au 12 août déjà. Le Sénat pourrait l'adopter aujourd'hui. Et, mais qu'est-ce que le Sénat devient? Est-ce qu'il est rentré en arrière pour dire par exemple que non, écoutez, si tiens, je vais découpler, ou bien je ne vais plus découpler, je vais bouger un peu les dates par rapport à mon calendrier électoral, parce qu'il tenait au respect de son calendrier électoral. Je me pose la question de savoir ce que déjà ça menace, ou il va bouger un peu chose par rapport à la réception et le traitement des candidatures à tous les niveaux d'élection. C'est la question que moi je me pose, à laquelle il n'a pas encore répondu.
Malheureusement, il n'est pas là pour donner la réponse à cette question. D'après Mbambi, on revient à la répartition des sièges. Apparemment, c'est un peu équilibré. Hein. On a deux provinces de l'Est. L'une a eu beaucoup d'enrôlés, c'est le Katanga, et l'autre peu d'enrôlés, c'est le Maniema. Et à l'Est, deux autres provinces, nous avons Kinshasa avec plus d'enrôlés, et le Bas-Congo avec moins d'enrôlés. Et c'est équilibré comparativement à 2005, où à l'Est, il y avait beaucoup plus d'enrôlés par rapport à l'Ouest.
Bon, c'est vraiment c'est un paradoxe. Vous savez, en 2006, au sortir de la guerre, et les clients se déclinaient de voir qu'à l'Est, il y a eu beaucoup plus d'enrôlés à l'Est. Et maintenant que nous avons la paix, nous voyons les choses changer autrement. Mais nous sommes rassurés, c'est tout. Ici, à l'Équateur, les gens craignaient du fait que, comme on dit, le petit manque de l'Équateur, c'est une bastion de l'opposition, et on a tendance à manipuler les choses pour qu'il y ait moins d'un relais pour jouer sur les points électoraux de la province. Mais curieusement, nous voyons que l'Équateur est bien parti en deuxième position avec, je crois, 500 députés provinciaux d'ici, 62 députés nationaux, c'est que la CENI a fait son travail en toute honnêteté.
Ambroise Mamba, l'examen à ce moment-ci du projet de loi portant annexe à la loi électorale ne pourrait pas avoir d'incidence sur le calendrier électoral.
Oui, je vais le dire tout à l'heure, parce que Ngoïnou Lunga a menacé de découper les élections au cas où il n'avait pas cette annexe le 10 août. Alors, il n'a pas encore donné la réponse par rapport à ça. Le Sénat pourrait l'adopter ce vendredi pour l'envoyer au chef de l'État pour promulgation. Je suis en train de croire que ça aura effectivement des incidences sur le calendrier électoral. Peut-être qu'on va encore réduire les dates, et on va encore, les dates qui étaient d'abord très serrées, on va encore les resserrer, et ça va encore plonger les partis politiques dans la précipitation, parce qu'ils doivent préparer les candidatures, les déposer, le temps pour la CENI de les traiter, ainsi de suite, et valider ces candidatures, ainsi de suite. Je pense que ça va effectivement bouger les dates au niveau du calendrier électoral. Et c'est la précipitation qu'on dénonce souvent. Lorsque les élections se préparent dans la précipitation, les résultats ne seront pas escomptés. Et là, Ngoïnou, nous avons pu prendre son courage, peut-être pour dire à l'opinion, écoutez, nous avons un problème, la loi que j'avais demandée le 10 août, on ne l'a pas donnée le 10 août, les délais étant dépassés, je vous propose le report un tout petit peu des élections, au lieu du 28 novembre, peut-être repoussé à décembre. Alors, voir si les partenaires sont les partis politiques, comment ils vont réagir à ça, et puis aller de l'avant, pourvu qu'on ait des bonnes élections au lieu de remettre les élections bâclées.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Propagation rapide de l'épidémie de choléra dans la ville de Kinshasa. D'après l'OMS, la capitale congolaise enregistre à ce jour plus de 200 cas, dont 21 décès. La situation de choléra évolue de façon rapide dans la ville de Kinshasa. L'OMS l'a déclaré mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Le des coordonnateurs du groupe sectoriel santé urgence à l'OMS, précise que 19 zones de santé dans la ville de Kinshasa sont actuellement touchées par cette épidémie. Des 171 cas, dont 21 décès, sont enregistrés. Dr Kofi Aïgan ajoute que le bilan sur l'ensemble des provinces affectées est fait état de 5088 cas, dont 296 décès. Tout en précisant que les partenaires en appui au ministère de la Santé continuent la formation du personnel de santé sur la prise en charge de cette maladie, Dr Kofi Aïgan sollicite l'implication de tous. Il s'exprime au micro de Onésime Mukandila.
On a besoin que les autres secteurs, notamment l'énergie, l'environnement, puissent aussi s'impliquer pour qu'on puisse arriver à combattre définitivement cette épidémie. La cause de cette épidémie est essentiellement le non-respect des règles d'hygiène. On a constaté que depuis quelques semaines, il n'y a plus d'eau potable, il y a une rupture de l'eau des robinets, et ajouter à cela les règles, les conditions précaires d'hygiène, et tout cela fait que, bon, malheureusement, le choléra qui vient également par transmission à travers l'eau du fleuve ne fait que faire rage dans la ville de Kinshasa.
Victoire Yobi, vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. La propagation du choléra est rapide à Kinshasa. On peut conclure que toutes les dispositions prises se sont avérées inefficaces.
Non, disons que le gouvernement est en train de déployer des efforts, bien sûr, parce que ce n'est pas quelque chose qui était prévisible, mais plutôt qui trouve un terrain fertile, c'est-à-dire à travers la salubrité, le non-respect des règles d'hygiène dans notre pays, principalement à Kinshasa, ne sont plus à démontrer. Et je me dis que la campagne actuelle devrait aller beaucoup plus en profondeur, que c'est limité aux histoires de laver les mains avant de manger, après, je ne sais pas, les installations hygiéniques et autres. Il faudra une véritable action d'envergure dans le sens de la lutte contre l'insalubrité, une action d'envergure au niveau des écoles, au niveau des familles, au niveau même des églises. Je me dis que la campagne doit s'étendre dans ces différents milieux, mais également que l'État déploie les moyens nécessaires pour accroître la lutte contre l'insalubrité. Vous savez, à Kinshasa, par exemple, jusque-là, ce sont les blousons verts de l'Union européenne qui s'occupent comment nettoyer par-ci par-là les avenues et même à décharger nos poubelles. Et je crois que cette responsabilité ne devrait pas se limiter aux blousons verts de l'Union européenne. Il faudrait que l'État des villes prenne ses responsabilités. Les communes, pourquoi pas, les quartiers. Et ce qui est étonnant, c'est que les blousons verts entrent même dans nos quartiers, dans nos ruelles, pour aller balayer nos avenues, et pourtant les Congolais sont là. Comment les Congolais peuvent être aussi insensibles pour ne pas balayer leurs avenues, ne pas balayer leurs parcelles, et attendre que les blousons verts de l'Union européenne descendent jusque-là? Je me dis que c'est cette action d'envergure que nous attendons du gouvernement, plutôt que le seul fait de distribuer des traités à gauche à droite. Il y a une grande mobilisation à faire parce que c'est la vie de toute une population dans une ville où on se retrouve avec 10 millions d'habitants sans infrastructure de qualité pour veiller sur les respect de l'hygiène. Je me dis que nous sommes vraiment interpellés.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Congo Web, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et qu'est-ce qu'il faut pour stopper la propagation de cette maladie, Victoire Yobi, et parler d'une action d'envergure pour lutter contre l'insalubrité?
Je vais apporter la même chose que Victoire, parce que je constate que les responsabilités sont partagées. D'abord, il y a le gouvernement qui doit faire sa part, il y a les Congolais, la population qui doit également faire sa part. Et la part de la population, c'est quoi? C'est se laver les mains le matin avec du savon avant et après avoir mangé, après avoir salué quelqu'un qui décide. Mais la part du gouvernement, ici, on devait la sentir. C'est là que le gouvernement devait montrer qu'il combat effectivement l'épidémie. Il y a que ça. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que vous savez, l'environnement de la capitale est déjà favorable à la propagation de l'épidémie du choléra. Il y a de l'insalubrité partout. Alors, quand il y a la maladie qui touche la ville, on devait sentir quand même de la part du gouvernement une certaine mobilisation. On mobilise les ressources, on déploie quand même les conventions, on peut les appeler les cantonniers, partout dans chaque quartier. On devait voir ça chaque jour, dans chaque quartier, dans chaque avenue. On devait interpeller les gens dans leur parcelle, dans leur quartier, pour qu'on mette un peu de la salubrité un peu partout. Et comme ça, on peut espérer que, qu'on espérait éradiquer la maladie. Mais quand ça ne se fait pas, une aide du gouvernement, les ministres de la Santé qui passent à la télévision pour faire des messages télévisés. Mais ça ne se fait pas. Parce que les gens sont plus préoccupés à aller chercher à manger qu'à nettoyer leur parfait, qu'à nettoyer leur avenir. Effectivement, ils semblent minimiser, la population semble minimiser un peu la teneur de la propagation de l'épidémie. Et voilà pourquoi il y a encore des cas qu'on enregistre. Ici, le gouvernement doit prendre des responsabilités, développer des fonds nécessaires, qu'on sente qu'effectivement, il y a une épidémie et il y a aussi un gouvernement qui combat l'épidémie. Mais quand ça ne se fait pas, comment est-ce qu'on peut espérer éradiquer la maladie? On va dire que la population n'a pas respecté les règles d'hygiène, quoi? Se laver les mains avec du savon ou faire quoi? Or, la santé publique, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement.
Merci. Delphine Bambi, vous êtes correspondant de Digital Congo en Mbandaka à l'Équateur. Et l'Équateur, c'est l'une des provinces affectées par cette épidémie. Et comparativement à Kinshasa, comment se présente la situation là-bas?
Alors, disons, sous le portant des statistiques, nous avons eu à enregistrer 1300 cas. Et puis, dans 1300 cas, 95 des cas ont été enregistrés ici, l'ensemble de la province. Et l'agent est en train d'appliquer, l'agent est en train de voir un rapport qui est ici au centre-ville avec 309 cas et 10 décès. Et suivi l'agent de santé de Makanda qui a enregistré 209 cas et avec 22 décès. Tous ces résultats nous ont été communiqués par les 80 bureaux chargés de lutte contre la maladie à l'inspection médicale provinciale. Mais si, il faut dire que la lutte est vraiment multisectorielle. Il y a des ONG, notamment la CHU, les médecins sans frontières, l'UNICEF, l'OMS, Oxfam, Grande-Bretagne, MONUSCO, les ONG CADECOR, Croix-Rouge. Et toutes ces organisations sont vraiment en train de travailler en synergie pour pouvoir bouger la maladie hors de la province. Vous savez, c'est vraiment un pays qui voudrait passer comme réservoir de maladies de médecins. Vous savez, quand nous parlons de la poliomyélite, c'est aussi une maladie de médecins, les choléra, c'est le moment. Il faudrait vraiment que l'État puisse s'impliquer pour que les services d'hygiène, notamment, puissent redorer son blason d'antan. À un certain moment, nous avons connu la police d'hygiène, les hommes en uniforme qui circulaient dans différentes avenues, dans des coins, pour pouvoir contrôler si l'hygiène est respectée. Et là, les gens sont respectés, mais pour le moment, il y a une sorte de léthargie, et ce qui fait que les maladies des messales sont en train de se propager à travers la ville et à travers le pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Eric Yassiyakala était à la technique, Alain Hirung à la réalisation, assisté de Kéline Coussé, et sous la supervision de Ben Kabamba, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi. Thank you.